Radio Okapi. Okapi.
Mesdames et messieurs, les titres de cette édition, le nombre de personnes affectées par le virus Ebola à Djerra revu à la hausse, 53 cas enregistrés dont 31 décès. L'épidémie est toujours contenue dans ces seuls secteurs de la province de l'Équateur, assure le ministre de la Santé. Clôture de l'opération de repérage des bornes frontières terrestres entre la RDC et le Rwanda, menée par la commission mixte d'experts congolais et rwandais. 22 bornes frontières terrestres sont identifiées. Hausse depuis dimanche soir du prix du carburant, c'est une hausse de 50 francs congolais sur le litre. Les conducteurs réclament déjà une révision dans le même sens du prix de la course du transport en commun. Bonjour à tous. Les statistiques de l'épidémie à virus Ebola qui sévit dans l'aire de santé de Djerra en Équateur font état actuellement de 31 morts sur 53 cas enregistrés. Ces informations ont été livrées hier lundi par le ministre national de la Santé à son arrivée à Mbandaka. Félix Kabangé Numbi, qui arrive pour la deuxième fois à l'Équateur suite à cette épidémie, a échangé avec le gouverneur intérimaire Sébastien Impeto. Il a souligné que seule l'aire de santé de Djerra reste toujours et que la situation reste sous contrôle grâce aux mesures de contingence mises en place par son gouvernement. Le ministre Kabangé Numbi fait le bilan actualisé de l'épidémie au micro de Paul-Richard Malengela.
Nous sommes à 53 cas, 13 cas confirmés au laboratoire, 19 cas probables et 21 cas suspects. À ce jour, nous avons 31 décès. Nous avons 15 prélèvements. Sur les 15 prélèvements, 13 sont positifs à Ebola. Et nous sommes en train de suivre aujourd'hui 185 cas contacts. Parce que quand vous avez un cas d'Ebola, il faut automatiquement voir les personnes contacts. Ces personnes contacts, nous devons les suivre tous les jours pendant 21 jours. Parce que lorsqu'on est en contact avec quelqu'un qui souffre d'Ebola, vous pouvez faire la maladie dans les 2 à 21 jours qui suivent. L'alerte doit être suivie. L'alerte ne doit pas être diffusée sur les médias. C'est le cas qu'on a eu avec une dame de 65 ans qui est morte d'autre chose, mais on a créé des alertes dans tous les sens pour parler d'Ebola à Mbandaka. Il n'y a pas Ebola à Mbandaka et il ne faudrait pas que les rumeurs soient répercutées par les médias. Le gouvernement de la République et le gouvernement provincial sont ensemble pour protéger Mbandaka de l'épidémie d'Ebola.
Par ailleurs, le ministre exhorte la population de Mbandaka et celle de toute la province à appliquer les mesures préventives. Il s'agit notamment de la mise en quarantaine de Djerra, de l'interdiction de contact avec les malades et leurs fluides, du lavage de mains et de la dénonciation de tout visiteur qui viendrait de la zone infectée. Et comme mesure préventive, la Croix-Rouge de Chicapan en province du Kasaï occidental demande à la population de cette ville et ses environs de ne plus consommer la viande boucanée en provenance de la province voisine de l'Équateur. Demande formulée devant la presse hier lundi par le chargé des catastrophes à la Croix-Rouge. Germain Kingelezi justifie cette alerte par la proximité du secteur de Djerra, foyer du virus d'Ebola avec le territoire de Dékessé dans les Kasaï occidental. D'après lui, le marché local de Chicapa est approvisionné en quantité importante des viandes boucanées en provenance de ce coin. Germain Kingelezi est au micro de Joseph Mwamba de la radio Kilimandjaro.
Nous avertissons la population de la ville de Chicapa et sa périphérie de s'abstenir de consommer toutes les viandes boucanées qui viennent dans ses côtés et de respecter les règles d'hygiène, surtout sur le lavage des mains au savon et les salutations en main. C'est parce que notre territoire de Kessé du Kassai occidental se limite par le secteur de Djerra dans le territoire de Bouende, là où il y a épidémie. Donc c'est facile que nous pouvons attraper l'épidémie si on ne respecte pas les règles d'hygiène.
Rendons-nous à Goma pour parler de la fin de l'opération de repérage de bornes frontières entre la RDC et le Rwanda. Les 22 bornes marquant les frontières terrestres entre les deux pays au niveau de la frontière terrestre entre Goma et Gisenyi ont toutes été repérées. Certaines sont physiquement visibles alors que d'autres n'ont été identifiées que par leur site. C'est les résultats de l'opération menée du 26 au 30 août dernier par la commission mixte d'experts congolais et rwandais. Selon le délégué du gouvernement provincial du Nord Kivu dans cette commission, il reste à planifier l'opération similaire pour les frontières lacustres sur le lac Kivu. Roger Rachidi Tumbula donne d'autres explications au micro de Bernard Danyangi.
Nous avions des GPS qui nous donnaient exactement les référentiels par rapport aux coordonnées géographiques qui se trouvent sur le protocole d'accord de 1911. Et que donc, on identifiait toutes ces bornes-là. Il y en a qui ont été cassées, mais les vestiges étaient trouvés. Il y a des endroits où on a trouvé des amas de pierres. La borne 22 était retrouvée sur le mont Ehou, c'est vers Kibumba là-bas. Mais sur le lac, il suffira d'avoir quelques hors-bord avec les GPS. On peut retrouver les coordonnées géographiques. Mais il a été dit que c'est dans la séance prochaine de validation qui commence le 15 septembre à Kigali, où on va projeter la matérialisation de la frontière liquide, donc la frontière au niveau du lac. Le rapport que nous allons valider le 15 septembre, les chefs d'État vont décider. S'il y a des compénétrations, puisque sûrement il y en a eu, une partie où le Rwanda est entré au Congo, une partie où le Congo a glissé vers le Rwanda, etc. S'il y a des décisions politiques à prendre, ça appartient aux politiques. Ça, ce n'était pas le but de notre travail. Nous, on était des experts, des techniciens.
Restons au Nord Kivu, où la cour militaire opérationnelle a rendu hier lundi deux arrêts contre deux éléments du régiment blindé de la garde républicaine à Goma. Ces deux éléments étaient reconnus coupables pour les infractions des destructions volontaires des munitions de guerre, violation des consignes et abandon de poste. Lutte contre les violences sexuelles. Si le plan d'action des FRDC contre les violences sexuelles qui vient d'être élaboré arrive à être mis en œuvre avec succès, la RDC sera le premier pays à avoir rédigé un tel document dans le cadre de la lutte contre ces violences et servira d'exemple. Madame Bangoura l'a affirmé hier devant la presse à l'issue de l'atelier d'élaboration du plan d'action qui vise à faire régresser l'implication des hommes en uniforme dans les violences sexuelles. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les violences sexuelles affirme que ce plan d'action a la particularité de présenter des stratégies ainsi qu'un mécanisme de suivi et d'évaluation. Agathe Mponaïlema.
La ministre du Genre présente également à la conférence de presse a quant à elle présenté des statistiques qui démontrent que le nombre de viols commis par les éléments de l'armée et de la police congolaise a décru de 2011 à 2013, tandis que ceux commis par les miliciens a plutôt suivi le mouvement inverse. En 2013, il y a eu 36% de cas commis par les miliciens contre 8% de cas commis par les FRDC. Elle affirme donc que les efforts faits par le gouvernement dans la lutte contre ce fléau sont visibles. Elle appelle plutôt la communauté internationale à sensibiliser les groupes armés étrangers et les différentes milices actives. Geneviève Inagossi.
Nous voulons que l'impunité cesse au sein des pays qui instrumentalisent les groupes armés chez nous. Et aussi qu'on punisse les multinationales qui entretiennent les milices chez nous. Il y a un effort qui est en train d'être fourni au sein des FRDC.
L'objectif reste tout de même zéro cas de viol commis par les éléments de la police ou de l'armée. La ministre de la Justice, également présente, n'a pas omis d'affirmer que du côté de la justice, des efforts sont également faits. Selon la ministre Matipa Mumba, en 2011, 8000 cas de viol ont été commis par les FRDC. Le trois quarts d'entre eux ont été traités, le reste étant en cours de traitement.
Le prix du carburant à la pompe a connu une augmentation de l'ordre de 50 francs congolais depuis dimanche soir et se vend dans la capitale à 1525 francs congolais l'essence et 1515 francs le gazoil. Les pétroliers affirment que cette hausse est conforme à un accord convenu entre le gouvernement et la profession pétrolière d'augmenter le prix par palier. La dernière hausse a eu lieu en juillet dernier. Les professionnels du transport estiment qu'au regard des différentes augmentations qu'il y a eu, il est largement temps de revoir à la hausse les prix du transport en commun. Un reportage de Agathe Mponaïlema rendu par Michel Kifindangoy.
Les raisons à la base de la hausse du prix des produits pétroliers commencée en juillet dernier étaient exogènes. Le prix d'acquisition des produits à l'importation avait connu une hausse depuis le mois de février. Cumulée avec la hausse autorisée au mois de juillet par le gouvernement congolais, l'augmentation est aujourd'hui de l'ordre de 125 francs congolais. Du côté des professionnels du transport dans la capitale, les yeux sont tournés vers l'autorité urbaine. Henri Lissumbu, président de l'association des chauffeurs du Congo ASECO, et membre de la commission tarifaire.
Déjà depuis trois mois, il y avait une note technique. Le chef de division urbaine de l'économie avait déposé auprès du gouverneur de la ville qui n'a pas eu d'effet. Il serait souhaitable que le gouverneur de la ville et ses services puissent se pencher pour voir comment on peut revoir le prix de la course en taxi et taxibus.
Entre-temps, sur Sur le terrain, les chauffeurs des taxis travaillent à perte, affirme Henri Lissoumbou. Ils pratiquent des prix qui ne correspondent pas au prix auquel ils s'approvisionnent en carburant. Selon lui, même les propriétaires des véhicules ont augmenté le montant de leurs versements journaliers.
Environnement pour clore ce journal. Ouverture hier lundi à Kinshasa de la troisième édition de l'Université internationale REDD+. Entendez, réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Il s'agit tout simplement d'un forum d'échange et des partages d'expériences sur la mise en œuvre du processus REDD+ en RDC. L'objectif visé est d'engager le pays dans un véritable chantier national de transformation cohérent, intégré et novateur visant à réconcilier la dynamique du développement économique du pays et celle de la protection de l'environnement et de l'épanouissement de son peuple. Innocent Olinga pour les détails.
C'est la montée en puissance collective des parties prenantes congolaises sur la question REDD+ qui vise l'Université internationale de la REDD+. Si la première et la deuxième édition ont porté sur la présentation des concepts liés à la REDD+, les plans de préparation et l'élaboration de la stratégie nationale pour l'édition actuelle, au-delà de l'information, le ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et du Tourisme qui l'organise voudrait ancrer véritablement les processus dans les paysages politiques et programmatique congolais en constituant, connectant et renforçant les réseaux de connaissances et d'expériences en RDC et dans la région. Pour ce faire, pendant 5 jours, les participants venus de toutes les provinces de la RDC, de plusieurs structures et d'une dizaine de pays africains devront renforcer la dimension participative du processus REDD+.
Notez que le ministre de l'Environnement, Bavon Samputu Elima, est l'invité de Radio Okapi tout à l'heure à 7h33. Il est 7h11 à Kinshasa. Ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi.
Okapi, Okapi, yeah. Radio, Okapi.